porte élevée vaut l'un taux. Est-ce que vous savez où ça se trouve dans la Bible, ça? On va voir s'il y a des érudits ici. Je suis le seul. Non, non, mais... C'est un psaume, le psaume 24, que je vais vous lire. Écoutez bien. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Le monde avec tout ce qui l'habite. Tiens, c'est... Vous appartenez tous à Dieu, même si vous ne le voulez pas. Dieu possède tout sur la terre, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges, et qui ne fait pas des serments trompeurs. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Et puis là, il y a une petite pause dans le psaume. Et puis regardez ce que David proclame derrière. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort, si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Et un peu plus loin, il dit l'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui le roi de gloire. C'est puissant, hein? Et souvent, on a utilisé ces psaumes, vous savez, pour ouvrir les temps de louange. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Avant les temps de louange, il y a le lead qui lit le psaume 24. Mais c'est bien plus que... Un psaume qui est destiné à être proclamé avant des temps de louange. Ce psaume, en fait, c'est une déclaration de vie. C'est une déclaration d'engagement dans ce que je veux être et dans ce que je veux que Dieu soit pour moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, ce psaume, les commentateurs bibliques vous diront qu'il a été écrit à un moment important dans l'histoire d'Israël. Il a été écrit... À un moment où l'Arche de l'Alliance va revenir à Jérusalem. Elle a été pendant des années en dehors de la cité sainte. Et puis, elle va être ramenée d'une manière assez solennelle par David sur la colline de Sion à Jérusalem, juste à côté de la maison royale de David. Et David, il dit, mais Dieu va entrer en possession de sa résidence sur la montagne de Sion. Dieu vient. Et David invite les portes de Sion à prendre de la hauteur afin de permettre à l'Éternel d'entrer dans sa demeure. En fait, David est en train de réaliser une chose. L'arche représente la présence de Dieu et il dit, mais les portes de Jérusalem ne sont pas assez hautes pour que Dieu puisse y entrer. Dieu est bien plus grand que ce que nous avons construit en tant qu'être humain. Dieu est bien plus puissant, puisqu'il le dit. L'Éternel est grand dans les combats. L'Éternel a affermi la terre. Toute la terre appartient à Dieu. Comment Dieu pourrait-il être contenu dans une ville comme Jérusalem? Et ça nous ramène à quelque chose que nous devons saisir. Souvent, nous fabriquons un Dieu, nous fabriquons des portes pour faire entrer Dieu avec nos dimensions humaines, alors que Dieu est bien plus grand, bien plus puissant. Et Dieu peut même faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et nous, avec nos petites portes, nous limitons Dieu. Mais David, lui, ne veut pas ça. Il dit, porte, élevez vos linteaux. Parce que, en fait, David, ce qu'il recherche, c'est que Dieu soit présent. Que cette arche de l'Alliance qui est amenée dans Jérusalem ne soit pas juste un acte symbolique, mais ce qu'il recherche, lui, c'est la réalité de la présence de Dieu. Et il dit, porte, élevez vos linteaux, porte, élargissez-vous, agrandissez-vous, parce que Dieu est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Et David, en fait, il n'a pas envie d'empêcher de faire en sorte que quoi que ce soit dans ce qu'il est, ou dans le peuple, viennent empêcher Dieu d'entrer. Parce qu'il a un profond désir que Dieu règne. Il a un profond désir que Dieu soit présent. C'est pourquoi il l'écrira au début de ce psaume, mais qui pourra tenir dans ce lieu saint? Il voit bien que celui qui a les mains coupables ne pourra pas tenir. Il voit bien que celui qui a la bouche trompeuse ne pourra pas tenir. Il voit bien en fait la réalité de son péché. Il voit la réalité de qui il est, lui. Et nous ne pourrons pas permettre à Dieu en entrer avec des mains coupables, des bouches trompeuses. Et nous ne pourrons pas laisser Dieu entrer si nous ne réglons pas le problème de notre péché dans notre vie. C'est pourquoi il est écrit que Jésus est venu de nous purifier, nous laver de tous nos péchés. Parce que Dieu ne pourra pas entrer dans un lieu sale. Et nous avons besoin d'être purifiés. Et il dit, telle est la génération de ceux qui te cherchent et qui aspirent après toi. Je le répète, telle est la génération de ceux qui te cherchent et qui aspirent après toi. La question est-ce que je cherche Dieu? Est-ce que j'aspire vraiment à sa présence? À ce qui règne dans ma vie? Il dit, porte, élevez-vous. Linteau, élevez-vous. Les linteaux, c'est ce qui est au-dessus des portes. D'accord? On a un frère dans l'église, ici, qui s'appelait David. On l'appelait le grand David, d'ailleurs. Quand il venait chez moi, il était obligé de baisser la tête. Le linteau n'était pas assez haut. La porte, vous savez, c'est une ouverture qui permet d'un accès d'une pièce à une autre pièce. C'est la porte, c'est ce qui permet un accès entre l'extérieur et l'intérieur, et l'intérieur vers l'extérieur. Et sur les portes, parfois, il y a même des serrures. Et les linteaux qui sont abaissés, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui peut être abaissé? C'est souvent des problèmes récurrents dans nos vies, qui gangrènent nos vies, et qui ferment, qui limitent ce que le Père avait prévu de faire. Lorsque nos linteaux sont abaissés, c'est en réalité notre propre vie qui est abaissée. Ce que nous pensons, ce que nous faisons, il représente aussi, et souvent, il représente ce que l'ennemi pose au-dessus de nous pour nous empêcher, nous limiter de vivre des réalités du royaume de la présence de Dieu. Je vous donne un exemple. Acte 12. Pierre est arrêté. C'est un moment où l'évangile est en train de progresser à une vitesse comme jamais on ne l'a vu. Dans Jérusalem. Et là, on est en train de commencer. Le diable est en train d'attaquer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est en train de faire en sorte que certains hommes, il influence des hommes qui veulent attaquer, qui veulent se... persécuter l'Église. Alors que se passe-t-il? Hérode, qui est le roi juif de l'époque, maltraite l'Église. Jacques est arrêté. Il est même exécuté. Il meurt pour la bonne nouvelle. Et puis Hérode fait arrêter Pierre. Vous connaissez tous Pierre, le Pierre de la Bible. Hein. Vous connaissez peut-être un Pierre, mais le Pierre de la Bible. Et la veille de la comparution de Pierre au tribunal, un ange vient. Il entre dans la cellule de Pierre. La lumière entre avec lui. Et il va faire une chose, la première des choses qu'il fait, on ne va pas le mimer, parce que je risquerais de faire de mal à quelqu'un, mais il lui frappe sur le côté comme ça. Il lui donne un coup de pied. Il lui dit, hey Pierre, lève-toi. Ça, c'est un acte symbolique que l'ange est en train de faire. Parce que souvent, nos linteaux sont abaissés de telle manière que nous sommes endormis dans notre propre prison. Alors que le rôle de Pierre, et ce que Pierre était appelé à faire, c'était de prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Et le diable était venu enfermer cet homme dans cette prison-là. Et souvent, parce que nous sommes enfermés, nous nous endormons. Souvent, notre sommeil spirituel est lié à notre prison. Alors que là, l'ange, la première des choses qu'il est en train de faire, c'est de le réveiller. Et il le réveille pas. Oh Pierre, vous savez, comme des fois on réveille nos enfants pour aller, c'est l'heure d'aller à l'école. Non, 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 non. Lève-toi, Pierre. Et le Seigneur m'a dit, cette nuit, il m'a dit, il y a des personnes ici qui ont besoin d'être réveillées, qui sont endormies dans leurs cellules. Ils ont besoin d'être réveillés pour de nouveau sortir et être libres de pouvoir prêcher l'évangile. Tu t'es endormi, entends bien ceci, et je ne mâche pas mes mots, parce qu'il faut l'entendre. Tu t'es endormi, et ce matin, cette parole qui sort de cette bouche, c'est comme un coup de pied pour te réveiller, pour te faire lever et entrer vraiment dans ton appel. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où cette parole arrive et que Pierre est réveillé, vous savez ce qui se passe ? Les chaînes tombent. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Les chaînes tombent. Écoutez ceci. Pierre remet sa ceinture. Et là, c'est pas l'ange qui l'habille. Vous savez, des fois, même nos enfants sont tellement mal réveillés le matin qu'on doit les habiller nous-mêmes. C'est tout juste si on ne doit pas leur brosser les dents. C'est tout juste si on ne doit pas les coiffer. T'as des somnambules qui se lèvent comme ça. Mais non, là, Pierre, il est vraiment réveillé. Il remet sa ceinture. Il s'arme de la vérité. Et souvent, le mensonge nous a liés dans notre prison. Et nous avons perdu cette notion de nous saisir de la vérité. Parce que nous laissons dans notre prison le mensonge venir. Et nous lier en quelque sorte. Et là, Pierre remet sa ceinture. Il remet ses chaussures. Moi, ça me fait penser à l'armure du chrétien dans Éphésiens. Il remet son manteau. Il repose sur lui le manteau qui représente l'identité, mais il représente aussi l'autorité. Il se replace. Et puis, il va suivre l'ange. Il passe une à une les portes où se trouvent les gardes. 16 gardes. Le garde est 4 cordes de 4 gardes qui tenaient Pierre, qui surveillait Pierre, qui l'empêchait de sortir. Ils passent les portes une à une. Ils arrivent à la porte de fer, c'est son nom, qui mène à la ville. Et elle s'ouvre elle-même devant eux. Qu'est-ce que Pierre a fait dans tout ça ? Il s'est juste laissé réveiller. Il a mis sa ceinture, ses chaussures, son manteau. Il a suivi l'ange. Qu'est-ce que Dieu a fait dans tout ça ? Il réveille. Il relève, il fait sortir pour servir. Nous ne méritons rien dans notre liberté. C'est Dieu qui fait tout. Simplement, lorsque Dieu nous parle, et je sais que des personnes sont interpellées par ce que je suis en train de dire, c'est peut-être le moment de réagir et de dire « je vais me lever et je vais suivre ce que Dieu me demande de faire ». Tu peux rester dans ta prison et dormir, mais tu finiras par être exécuté comme Jacques. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Soit tu sors et tu sers, ou tu dors et tu meurs. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Les temps viendront où il n'y aura plus de tiède, on le verra après. Les temps vont venir où ce sera les bouillants et les froids. Il n'y aura plus de tiède. Pourquoi c'est écrit dans l'Apocalypse, celui qui pêche, pêche encore, et que celui qui se purifie encore. Les chemins vont se séparer les uns des autres. Choisis ton chemin. Et ce que j'aime aussi, c'est que quand ils sortent, la première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils rejoignent les leurs. Il est écrit ça dans dans les actes. Hein. La première des choses, c'est qu'il va même frapper à la porte. Et c'est la maison de Jean-Marc. l'évangéliste. Et c'est Rode, d'ailleurs, qui ouvre la porte, elle voit Pierre, elle entend Pierre, puis elle court comme une faux-folle, parce qu'elle dit « Oh, Pierre est sorti !» Elle lui ouvre même pas la porte. C'est rigolo, non ? Et moi, ce que je retiens, c'est que quand tu es libéré, quand tu reviens vers Dieu, que tu t'habilles, que tu t'équipes, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas prêcher l'évangile, il ne va pas travailler en solitaire. La première des choses, c'est qu'il retourne vers les siens. Entends ce que l'Esprit dit à l'Église. Dieu appelle ses enfants aujourd'hui à être ensemble. Et si Dieu te libère, et si Dieu te sort de ta prison, c'est pour être avec les autres, pas pour être seul. Désolé de vous secouer, mais ça fait du bien de temps en temps. Comment ouvrir et élever les portes ? Regardez ce que Paul dit ici à Timothée. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux. » Excusez-moi, il faut que je prenne ma respiration, la liste est longue. « Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. » Tiens, tiens, on va en parler après. « Mais reniant ce qui en fait la force. » Moi, je peux avoir l'apparence de la piété, je peux jouer le bon petit chrétien du dimanche matin, je peux paraître, mais renier ce qui en fait la force. Et la force, c'est la force intérieure d'une vie transformée, changée par Jésus-Christ. Dieu ne t'appelle pas juste à venir le dimanche matin, il t'appelle à une vie de disciple. Où il va te changer, te transformer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie, pas vous. Alors, il y a un piège dans tout ça. Le piège, c'est l'Odyssée. Je voudrais qu'on aborde le sujet brièvement. Alors, je vais peut-être vous le lire, l'Odyssée. Elle n'est pas très longue, la lettre, mais elle est tellement importante. Apocalypse, c'est facile à trouver, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, je crois. 14, pardon. Écrit à l'ange de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Wow, c'est violent. Moi, mon chien était malade hier. On lui a donné un truc, vous savez, pour un vermifuge. Il faut voir, c'était le dallage dans la maison. Moi, j'ai pas vu, j'ai vu des photos. Parce que Timothée, quand il est rentré, il a pris des photos. Il a dit, c'était impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un vomir. Ou quand vous avez déjà vomi, c'est violent ce qui se passe. Quoi. Il y a un rejet. En fait, le vomissement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas supporter au niveau de la nourriture. Et c'est quelque chose que Jésus ne peut pas supporter quand il vomit. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je sais que tu es, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on n'en voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. Tiens, encore une porte. Et je frappe. Parce que des fois, il y a des linteaux qui sont abaissés. Mais il y a des fois, il y a des portes qui sont fermées en plus. Et regardez l'invitation de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Parce que le désir de Jésus, c'est de venir, d'entrer. Et David l'avait compris, Dieu voulait rentrer avec l'arche à Jérusalem. Et Dieu veut rentrer dans la vie, dans ta vie. Il veut y aller, mais il ne va pas forcer le chemin. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi, le vainqueur. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Je pense que Laodicée avait ce problème. Ça, vous voyez, c'est une image de Laodicée. Je ne sais pas ce que c'est comme porte, mais je trouve le linteau vachement bas par rapport à la largeur de la porte. Je ne sais pas si le grand David aurait passé là. Et Laodicée, en fait, avait abaissé ses linteaux. Et vous savez, le seul problème de Laodicée, ce n'est pas sa tiédeur. Le problème, ce n'est pas son aveuglement. Parce que tout cela, la tiédeur, l'aveuglement, c'est uniquement le fruit de son orgueil. L'origine, si tu vas chercher l'origine du problème de Laodicée, la racine, c'est l'orgueil. Et le problème de l'homme, c'est son orgueil. Ton problème, c'est ton orgueil. C'est la racine de tous les maux, l'orgueil. Et mon problème, c'est mon orgueil. Les signes de l'orgueil. On va regarder Laodicée, si vous voulez bien. Le problème, c'est la complaisance. Vous savez, quand vous commencez à vous regarder avec complaisance, « Oh, je ne suis pas mal du tout. Je suis riche. Je me suis enrichi », ils disent. Quand tu commences à te regarder avec complaisance, méfie-toi. Il y a l'orgueil qui voyage et qui n'est pas loin. Quand on commence à se satisfaire de ce que nous sommes, faites attention. L'origine, son origine, c'est l'orgueil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons rechercher à être totalement et continuellement insatisfaits. Être insatisfait de ne pas vivre plus dans la présence de Dieu. Être insatisfait de notre vie de prière. Être insatisfait de notre manière de marcher. Parce que tant que nous sommes insatisfaits, nous avons faim. Et dès lors que je commence à dire « Je suis pas mal, hein ?» Vous trouvez pas ? Quand tu commences à dire « J'ai une belle chemise », méfie-toi. Non, mais je prends l'exemple de la chemise, mais... Parce qu'en réalité, son problème se trouve... Comment cela ? Pour moi, c'est un signe. Et puis alors, l'autosatisfaction. Il déclare clairement « Je n'ai besoin de rien ». Waouh ! Mais comment pouvons-nous dire que nous n'avons besoin de rien ? Il est en train de dire, c'est bon les gars, j'y suis arrivé quoi. Et puis même, je peux regarder les autres avec une certaine condescendance en disant, je n'ai besoin de rien. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin des autres. Je peux m'auto-satisfaire. Et quand je commence à penser comme ça, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'orgueil en moi. Quand je me dis que je n'ai pas besoin des autres, c'est de l'orgueil. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Et puis, il y a l'égoïsme. Vous avez remarqué, je suis riche. Même un peu d'égocentrisme. Je n'ai besoin de rien. Je. L'orgueil me conduit toujours vers l'égoïsme et l'égocentrisme. Et moi, et moi, et moi. Jésus dira, je suis au milieu de vous comme quelqu'un qui sert. Et si vous regardez à Jésus, si vous allez puiser dans la vie de Jésus, vous apercevrez que Jésus dit rarement « je ». Il dit « moi et mon Père ». Et que lorsque vous regardez, je suis en train de lire un livre sur l'orgueil depuis une semaine, et c'est Andrew Murray. Si vous voulez, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet. C'est un livre gratuit. Je me demande s'il n'est pas ici, parce qu'à une époque, mon ami Robert, il m'avait donné tous des livres. Je me demande s'il n'est pas ici, vous regarderez dans la bibliothèque. C'est les petits livres jaunes là-bas. Et Andrew Murray a écrit ce livre il y a 150 ans. C'est incroyable, hein? C'est un pasteur, théologien sud-africain. Un homme vraiment assis sur la parole de Dieu, connaissait bien la Bible, mais surtout il avait une relation avec Dieu qui était extraordinaire. Il a écrit un livre sur l'humilité que je vous conseille, vraiment. Parce que, en fait, rien de nouveau sous le soleil, l'orgueil est toujours là, et nous avons toujours besoin autant d'humilité. Mais il faut voir dans quelle profondeur il nous amène dans la lecture, je vous le conseille vraiment. Mais si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message, je vous enverrai le lien. Et lorsque vous regardez l'évangile de Jean, regardez, lisez l'évangile de Jean, jamais vous ne verrez le mot humilité. Tiens, tiens, et pourtant, c'est l'évangile de l'humilité. Entre le chapitre 5 et le chapitre 8, vous allez voir au moins 7 références de Jésus qui dira « Je ne peux rien faire sans mon Père » ou « Je ne fais rien sans que mon Père me l'ait ordonné ». C'est-à-dire que le « je » dépend du Père. Le « je » le ramène au Père, tandis que lui, la Odyssée, le « je » le ramène à lui et à sa capacité à faire les choses. C'est pourquoi Jésus dira d'ailleurs, je te conseille de venir à moi et d'acheter les choses. Ah là là. Comment cette église en est arrivée là? Comment une personne peut en arriver à tomber dans ce piège de l'orgueil? Andrew Murray dira d'ailleurs que l'orgueil, c'est le poison que Satan a injecté dans l'homme à la création, enfin après dans le jardin d'Éden. C'est un vrai poison. Peut-être pas pour vous, mais pour moi c'en est un. Qu'est-ce qui en est arrivé là? C'est la tiédeur. Regardez, il dit, tu es tiède, tu n'es pas froid et tu n'es pas bouillant. Vous savez, la Odyssée se trouvait où? Pour ceux, est-ce qu'il y en a qui ont passé les vacances en Turquie? Non, jamais, vous n'êtes jamais allé en Turquie? Si, est-ce que vous êtes allé à Pamukkale? Vous savez, ces sources chaudes là qui coulent, vous voyez ? Ben en fait, l'eau, il y avait déjà le réchauffement climatique à l'époque, l'eau manquait déjà à Laodicée. Et en fait, il y a un aqueduc qui amenait l'eau dans la ville de Laodicée qui se trouvait pas très loin. Et cette eau qui sortait de Pamukkale, enfin de ces sources chaudes, elle coulait. Au départ, elle était chaude pour faire la lessive et faire la vaisselle, c'était sympa. Mais arrivé au bout de quelques kilomètres, l'eau n'était plus chaude, elle était tiède. Le problème de Laodicée, c'est que sa tiédeur, la tiédeur de son eau, c'était son éloignement de la source d'eau chaude. Alors que c'est ce que Jésus est en train de dire en réalité. Il dit, si tu es tiède aujourd'hui, c'est parce que tu te trouves à des kilomètres de la source. Et si tu es tiède aujourd'hui, c'est parce que tu es à des kilomètres du cœur du Père. Ne cherche pas d'autres. Ah, tu comprends, en ce moment j'ai des soucis. Ah, tu comprends, en ce moment j'ai des problèmes, j'ai des épreuves. Mais ton problème de tiédeur, ce n'est pas l'épreuve, ce n'est pas les soucis, ce n'est pas l'accumulation d'activités. Ton problème, c'est ton éloignement par rapport à la source, point barre. Enfin, désolé d'être aussi affirmatif, mais c'est ce que Jésus est en train de dire en réalité. Et cette situation-là, comment la vit-il le Seigneur? Mais il y a comme une forme de dégoût. Il dit, mais ça ne peut pas marcher entre toi et moi. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, ça me donne envie de vomir. La réalité, elle est là. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais la réalité, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois retourner près du cœur du Père. Ça veut dire que si tu sens de la tiédeur aujourd'hui, retourne vers le cœur du Père. Et tous, autant qu'on est, on pourra dire qu'on a eu des moments où on a été tiède. Et qu'est-ce qui a ramené le feu en nous? Le cœur du Père. D'être à côté de lui, face à lui, dans sa présence. Alors je peux continuer à faire comme Laodicée, être tiède, avoir l'apparence de la piété, je peux continuer à faire ça. Mais les paroles sont claires. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'entends Jésus dire « je te vomirai de ma bouche », moi, je n'ai pas envie d'être jeté par terre comme ça. Et croyez-moi, ça ne sent pas très bon, du vomi. C'est l'éloignement. Et l'humilité, elle trouve sa source en Christ. L'humilité, elle trouve sa source dans ma relation avec lui. John Tressel, que j'aime beaucoup, je me souviens à une époque, il y a quelques années maintenant, moi, une trentaine d'années, nous partions du côté de Beaumont là, faire une formation de disciples. Comme quoi, on finit jamais d'être en formation de disciples. Et John, dans la voiture, racontait une histoire. Il dit, John, bon, c'est vrai, c'est plutôt un beau gosse, hein, John Tressel, pour ceux qui le connaissent. C'est un bel homme, hein, John, c'est vrai. Avec son accent américain, comme ça, tu vois. Et puis John, comme ça, mais ça m'avait fait sourire. John était plutôt beau gosse, il est à l'université, et puis il y avait des filles qui couraient après lui. Et lui, il voulait se maintenir pur. Et puis, il arrive dans sa chambre et il dit, « Oh Dieu, vois toutes ces filles qui tournent après moi !» Et le Seigneur lui répond, « Tu sais, John, tu n'es pas si beau que ça. Mais j'ai aimé la réponse de Jésus. J'ai aimé parce que regardez comment Jésus lui répond. Il ne le ramène pas à dire, « Bah oui, c'est vrai, jeûne et prie, John. » Il le ramène à la réalité de son orgueil. Il le ramène dans la réalité de ce qu'il est réellement. Il trouvait qu'il était beau, John. Il lui dit maintenant, et si tu te regardais comme moi, je te vois, John. Et si tu te mettais à me regarder comme j'étais. Il est question dans Ésaïe de Jésus qui dit, il n'avait rien pour attirer les regards. Tu veux devenir humble? Regarde qui est Jésus et imprègne-toi de sa vie en toi. J'avance. Le plus humble est celui qui est le plus près du cœur du Père. Je continue. Vous savez, c'est aussi écrit dans ce livre, donc je fais un peu de plagiat, mais tant pis. À un moment donné, Andrew Murray dit, lorsque l'eau coule, l'eau tombe, elle ira toujours vers le lieu le plus bas. Alors c'est rigolo parce que moi, dans mon jardin, j'ai un jardin qui est une éponge. C'est de l'argile et puis j'ai une couche de terre un peu plus noble au-dessus. Mais quand il pleut beaucoup, j'ai l'impression de faire comme Jésus, de marcher sur l'eau, vous voyez. À part que je m'enfonce dans la boue quand même. Et dernièrement, bon, j'ai acheté une tondeuse, vous savez, une tondeuse automatique, là. Qu'est-ce qu'on devient fainéant à la retraite, hein. Et ben, elle ne marche pas parce que la batterie, je ne l'ai pas démarrée assez vite. Ça va, Marie, ça n'est pas trop en colère. On attend la nouvelle batterie. Et puis, l'autre jour, je pose et il se met à pleuvoir à côté de ma nouvelle tondeuse. Et là, une flaque d'eau comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire cette eau-là? Le Seigneur m'a dit, mais Bruno, c'est l'endroit le plus bas de ton jardin. Et il me renvoie à ce que j'ai lu dans le livre. Il m'a dit, tu as envie d'être rempli de moi? Sois le plus bas possible. C'est une loi naturelle, physique, mais c'est une loi spirituelle. Si Dieu te voit bas, c'est là où il te remplira. C'est fort, hein? Enfin, je ne sais pas comment vous prenez la chose, mais moi, j'étais très touché par ça. Donc, l'eau stagne toujours au même endroit. On est à l'endroit le plus bas. Et lorsque Dieu trouve une créature humiliée et vide d'elle-même, alors il vient, il la remplit, il fait couler sur elle sa gloire et sa puissance. Lui, qui s'est fait serviteur, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié, il a abandonné sa gloire. Il s'est humilié une deuxième fois. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il s'est humilié, Dieu l'a élevé. Souvent, on veut être élevé et pas être humilié. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une loi de Dieu. Mes frères, mes sœurs, il faut descendre toujours plus bas pour et lever des linteaux. Et puis, il y a cette invitation à ouvrir et élever nos portes. On pourrait le faire avant le prochain. C'est-à-dire, on va prendre le prochain culte, avant la prochaine louange. Je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus. Je pense qu'il a frappé ce matin. Il a frappé dans vos cœurs. Il a... Eh oh ! Eh oh ! Il a frappé. Il réveille. Quand tu frappes, tu réveilles. D'accord ? Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Et il mangera avec moi. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse si nous ouvrons les portes et si nous élevons les linteaux en nous abaissant. J'aurais pu dire, faire qu'une phrase et puis vous seriez déjà rentré chez vous. Mais c'était important d'aller un peu plus dans les détails, je pense. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi? Tu l'as dit, Seigneur, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Seigneur, je te prie pour que tu m'aides à élever les linteaux de ma vie, les linteaux de mon cœur, afin que je te laisse, Seigneur, entrer, afin que tu puisses vraiment entrer. Seigneur, tu m'appelles et tu m'interpelles ce matin à être de plus en plus humble et à faire la guerre, la chasse à l'orgueil dans ma vie. Mais tu m'appelles aussi, Seigneur, à sortir libéré de ma prison. Et tu vois, des portes se sont fermées dans la vie de certaines personnes ici. Elles sont emprisonnées à cause des circonstances, à cause des choses qui sont venues, et incapables aujourd'hui d'aller vers les autres, de rejoindre les leurs. Ce que je te demande, Jésus, c'est de leur permettre de les frapper sur le côté, de les réveiller, de les faire sortir et de rejoindre les leurs. Je te prie pour cela, je te prie que cette parole qui est annoncée ce matin puisse trouver la bonne terre et permettre à plusieurs de revenir vers toi et ainsi de sortir de la tiédeur et d'entrer pleinement vers ce que toi tu as prévu. Nous venons vers toi pour acheter du collyre pour moindre nos yeux. Nous voulons voir ce que nous sommes, Seigneur. Et ça, c'est auprès de toi. Je prie que tu nous ramènes encore plus près de ton cœur, près de toi, Seigneur, pour que nous soyons capables d'entendre ta voix. Sois béni, Jésus. Amen.